Ta vie est trop vite, je sais pas si c'est le temps.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 8 janvier 2025. Voici le sommaire. Guerre au Soudan, le gouvernement accuse les paramilitaires d'avoir commis plus de 500 viols entre 2023 et 2024. Les États-Unis menacent de sanctionner le chef de ce groupe armé. Cameroun, libération d'un magistrat enlevé le mois dernier dans le nord-ouest anglophone, en proie à un conflit séparatiste. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a démissionné, un acte qui affaiblit son pays face à Donald Trump qui menace de taxer davantage les produits canadiens.
Plusieurs déclarent le fait que le gouvernement est en très mauvaise posture pour négocier avec les États-Unis, avec le nouveau gouvernement de M. Trump.
L'analyse de Louis Balthazar, professeur des sciences politiques à l'Université de Laval, à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. Au Cameroun, un magistrat enlevé le mois dernier dans la région anglophone du Nord-Ouest a été libéré. Jean-Augustin Amongwa a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, disant avoir besoin de temps pour se remettre du traumatisme de son kidnapping. Nani Talani.
Le bonheur de ma libération a été accueilli par tout le monde et je veux répandre ce bonheur au lieu d'empoisonner l'esprit des gens au sujet des personnes malveillantes qui l'ont orchestré, a publié Jean-Augustin Amongwa sur sa page Facebook hier. Le directeur de Conscience africaine, Organisation camerounaise des droits humains, Amadou Tarté, a lui aussi confirmé sur sa page Facebook la libération de Jean-Augustin Amongwa, le deuxième avocat général de la Cour d'appel de Bamenda, enlevé le 29 décembre dernier. Selon M. Tarté, qui a échangé avec le magistrat hier, M. Amongwa lui a confié avoir besoin de 2 semaines pour se remettre du traumatisme de son kidnapping, après quoi il pourrait partager son expérience. Un responsable public sous couvert d'anonymat a confirmé que le haut fonctionnaire du ministère de la Justice avait retrouvé sa famille samedi soir. Depuis le déclenchement des violences séparatistes en 2016 au Cameroun, des kidnappings et des meurtres sont fréquents à Bamenda et dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, principalement peuplées par des anglophones.
Au Soudan, plus de 500 femmes ont été violées par des paramilitaires depuis le début de la guerre contre l'armée en avril 2023, a déclaré mardi une responsable gouvernementale, Souleyma Ishak Al-Khalifa, chef de l'unité gouvernementale de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants, a déclaré que les autorités avaient recensé 554 cas de viol commis par les paramilitaires des FSR, Force de soutien rapide, entre avril 2023 et décembre 2024. Elle a toutefois ajouté que ces chiffres ne représentaient qu'une fraction, environ 2% selon elle, du nombre réel d'attaques. Madame Khalifa a déclaré que les autorités avaient autorisé 36 avortements entre septembre 2023 et avril 2024. Les FSR n'ont pas encore répondu à ces accusations, mais en octobre dernier, un membre de ce groupe avait déclaré que les paramilitaires n'avaient recensé qu'un seul viol dans les zones sous leur contrôle. Les paramilitaires et les FSR sont accusés par l'administration Biden de commettre un génocide au Soudan. Washington envisage de sanctionner Mohamed Hamdan Daglo, le chef de ce groupe. Jean-Roger Billon.
Washington se défend de prendre parti dans le conflit et entend surtout promouvoir la responsabilité pour les crimes de guerre et autres atrocités commis dans le conflit au Soudan. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain a fait savoir que les RSF et les milices alliées ont systématiquement assassiné des hommes et des garçons, même des nourrissons, sur une base ethnique et ont délibérément ciblé des femmes et des filles de certains groupes ethniques pour les violer. En conséquence, le département du Trésor américain va imposer des sanctions au chef des RSF, Mohamed Hamdan Daglo Moussa, également connu sous le nom de Emedti. Ces sanctions vont également s'appliquer à 7 sociétés appartenant au RSF aux Émirats Arabes Unis, dont une qui se livrait à la contrebande de l'or au Soudan. Les RSF et l'armée soudanaise ont commencé à se battre en avril 2023. Leur conflit a fait plus de 28 000 morts et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer, dans une tentative désespérée de survivre alors que la famine frappe certaines parties du pays.
En Angola, 5 opposants au président João Lourenço ont été libérés après plus d'un an de détention. Parmi eux figure une influenceuse séropositive connue pour ses conseils aux malades sur TikTok, Antoine Bolamba.
Ana da Silva Miguel, connue sous le nom de Net Nahara, a été libérée le 1er janvier, tandis que les 4 autres ont été libérés le 6 janvier, a indiqué l'Organisation de défense des droits humains dans un communiqué. Le président João Lourenço avait annoncé leur grâce à Noël. Net Nahara est connue pour publier sur TikTok des conseils sur la vie avec le VIH, faisant d'elle l'une des rares Angolaises à parler publiquement de ce sujet. Elle avait été arrêtée le 13 août 2023 après avoir critiqué le président dans une vidéo en direct. Les autres militants avaient été arrêtés le 16 septembre 2023 en amont d'une manifestation selon l'organisation. Amnesty affirme que le gouvernement a privé Net Nahara de son traitement contre le VIH en prison, tandis que la santé des autres détenus s'est également gravement détériorée pendant leur incarcération. Bien que nous célébrions leur libération, ces 5 personnes n'auraient jamais dû être emprisonnées, a déclaré Sarah Jackson, directrice adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et Austral.
La mère de l'activiste égypto-britannique, Ala Abdel Fattah, a observé mardi son 100e jour de grève de la faim pour protester contre l'emprisonnement prolongé de son fils, promettant de continuer jusqu'à sa libération. La professeure de mathématiques de 68 ans a exhorté le gouvernement britannique à agir davantage pour obtenir la libération de son fils. Madame Laila Souefa a indiqué qu'elle survivait avec rien d'autre que du café noir, des tisanes, des sels de réhydratation et des vitamines. En septembre 2019, le blogueur pro-démocratie de 43 ans avait été arrêté après avoir partagé un texte sur la torture dans les prisons égyptiennes. Ala Abdel Fattah a été une figure du soulèvement de 2011 qui a renversé le pouvoir de Hosni Moubarak à la tête du pays pendant 3 décennies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi que les pays de l'OTAN doivent accroître leur budget de défense à 5% de leur PIB. Il a souvent reproché aux membres de l'Alliance de ne pas faire assez pour assurer leur protection. Dilidico.
Ils peuvent tous se le permettre, a dit Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier à la Maison-Blanche. Il devrait être à 5%, pas 2%, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride. L'ancien et futur président américain avait menacé durant la campagne électorale de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie si ceux-ci ne consacraient pas un budget suffisant à leur défense. S'ils paient leurs factures et si je pense qu'ils nous traitent de manière juste, la réponse est absolument que je resterai avec l'OTAN, a-t-il déclaré dans une interview récente. Les pays de l'OTAN se sont engagés il y a 10 ans, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement. Le chef de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, a lui-même prévenu le mois dernier que l'Europe devait dépenser beaucoup plus pour assurer sa défense.
Des hommes cagoulés ont enlevé mardi à Caracas, la capitale du Venezuela, le gendre d'Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, a annoncé l'opposant depuis Washington. À 3 jours de l'investiture du président Nicolas Maduro, mon gendre, Rafael Tudares, a été enlevé ce matin. Des hommes cagoulés et vêtus de noir l'ont fait monter dans une camionnette de couleur dorée et l'ont amené. Il est aujourd'hui porté disparu, a écrit M. González Urrutia sur X. J'affirme catégoriquement que mon mari est innocent de tout ce dont il pourrait être accusé, a déclaré Mariana González, la fille de l'opposant. En parallèle, la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, a dénoncé un harcèlement de sa mère. Des agents du régime ont encerclé la maison de ma mère, a-t-elle posté sur X, affirmant également que l'électricité avait été coupée dans la zone. Le gouvernement vénézuélien n'a pas encore réagi à ces accusations. L'ONU et le gouvernement libanais ont lancé mardi un nouvel appel aux dons de 371 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires urgents de la population touchée par le récent conflit entre Israël et le Hezbollah. Plus de 125 000 personnes sont toujours déplacées et des centaines de milliers de plus font face à d'immenses défis pour reconstruire leur vie, a commenté dans un communiqué Imran Riza, coordinateur humanitaire de l'ONU au Liban. Cet appel est principalement destiné à aider jusqu'à mars 1 million de Libanais, de réfugiés syriens et palestiniens et de migrants les plus touchés par la crise humanitaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
Le champ pétrolier et gazier offshore de Sangomar au Sénégal a augmenté sa production de brut à 16,9 millions de barils en 2024, dépassant son objectif initial de 11,7 millions, a déclaré mardi le ministère de l'Énergie de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Découvert il y a 10 ans, environ 100 km au sud de la capitale Dakar, Sangomar devrait produire environ 100 000 barils par jour. En Côte d'Ivoire, plus d'un tiers des 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium transportées par le navire Zimrida sont destinées à une société minière, indiqué mardi le directeur général du port d'Abidjan. 8 000 tonnes seront déchargées en Côte d'Ivoire après des soupçons d'avarie. Le navire battant pavillon de la Barbade a été autorisé à accoster lundi, jugé sans danger. Le Zimrida restera en quai 2 semaines avant de poursuivre sa route vers l'Angola et la Tanzanie. L'île Maurice a émis un ordre d'arrestation à l'encontre de son ancien ministre des Finances, Renganaden Padayashi, selon un avis de la police publié dans les journaux locaux mardi. Cet avis intervient quelques jours après l'arrestation de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, qui a été libéré sous caution le week-end dernier après avoir été détenu et accusé de conspiration en vue de commettre une fraude.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Rallye Dakar 2025 à 19 ans, Variawa s'empare de la troisième étape.
Le jeune Sud-Africain Saoud Variawa, 19 ans, a gagné mardi la troisième étape de la catégorie auto du rallye Dakar en Arabie Saoudite, une heure devant le Français Sébastien Loeb, accidenté. Avec son copilote et mentor, le Français François Cazalette, le pilote de Toyota a conclu la spéciale de 327 km entre Bicha et Al-Aynekia en 3h16 minutes 52 secondes. 33 secondes à peine devant le Français Gerlin Chicherit. L'Américain Seth Quintero complète le podium à 1 minute 48 secondes. Au classement général provisoire, le Sud-Africain Henk Lategan, Toyota, conservait la tête 7 minutes 17 secondes devant le Qatari Nasser Al-Attiya, Dacia, et 9 minutes 34 secondes devant le Suédois Mathias Ekström, Ford.
Real Madrid, Florentino Pérez convoque les socios aux élections.
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a lancé mardi la procédure d'élection générale au club, auquel il devrait être l'unique candidat à sa propre succession. Le président du club a demandé au conseil électoral d'entamer la procédure de convocation des élections du président et du conseil d'administration du club, indique le club de Madrid dans un communiqué sur son site internet. L'homme d'affaires âgé de 77 ans devrait être aisément réélu sans opposition comme lors des trois derniers scrutins 2013, 2017 et 2021 organisés depuis son retour à la tête du club en 2009. Pérez avait été élu président du club merengue pour la première fois en 2000 sous l'ère des Galactiques avant de démissionner en 2006. Depuis son retour, le Real a remporté 5 championnats d'Espagne et ses Ligues des Champions.
L'Olympique de Marseille se renforce avec le défenseur Luis Felipe.
Marseille a enregistré mardi son premier renfort du marché hivernal des transferts avec la signature du défenseur central italo-brésilien Luis Felipe Ramos, qui s'est engagé après avoir rompu son contrat avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Âgé de 27 ans, Luis Felipe a signé avec l'OM jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, selon une source ayant connaissance du dossier. Défenseur solide et expérimenté, il vient renforcer l'arrière-garde de l'OM, sans doute le secteur le plus fragile du club, entraîné par l'Italien Roberto De Zerbi. international avec le Brésil en équipe de jeunes, Luis Felipe a ensuite opté pour l'Italie, avec laquelle il compte une sélection en 2022.
Tony Estanguet devrait faire son retour au Comité international olympique en mars.
Le patron du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, devrait redevenir membre du Comité international olympique en mars après un premier mandat de 8 ans sur proposition mardi de l'instance de Lausanne.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous maintenant, la partie magazine. Le Tchad et le Sénégal ont dénoncé les propos du président français Emmanuel Macron, reprochant aux dirigeants africains un manque de gratitude envers la France pour son intervention au Sahel. Ces deux pays et d'autres en Afrique ont récemment demandé le retrait des forces françaises de leur territoire, certains préférant même un rapprochement avec Moscou. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à Yaoundé le député camerounais Cabral Libi.
La France, pays souverain, prend la parole. Le Tchad et le Sénégal, qui sont également des pays souverains, se sont exprimés. On peut tout au plus invoquer une forme d'asymétrie communicationnelle au sujet d'une problématique qui les concerne tous. À la vérité, la France a cru s'arroger un ton paternaliste à l'endroit des deux autres pays qui, en réaction, ont invoqué leur souveraineté, ce qui, de mon point de vue, est tout à fait légitime.
Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques des critiques récentes donc du Sénégal et du Tchad envers les propos d'Emmanuel Macron?
Je crois que la conséquence logique qui devrait advenir, c'est un respect renforcé entre ces différents pays. La France doit descendre un peu plus de ses grands chevaux, sortir de son paternalisme, arrêter de regarder d'autres pays souverains de haut, arrêter de tenir des propos que l'on pourrait trouver de condescendant, et je crois d'ailleurs que cet adjectif a été employé, je crois, soit le Tchad ou le Sénégal, et considérer que ces autres pays-là sont, au titre en tout cas de la Charte des Nations Unies, des pays souverainement égaux.
Ces propos surviennent après la demande de retrait des armées françaises du continent notamment. Est-ce que, de votre point de vue, les différentes perspectives de départ dans les pays africains sont les mêmes à Abidjan, au Niger, au Sénégal, au Tchad et dans d'autres pays où ça pourrait advenir?
Il s'agit au fond de ruptures, souvent qui soufflent violemment en Afrique de l'Ouest, qui commencent à s'emparer de l'Afrique centrale. Donc c'est un vent de rupture qui souffle. Les pays sont en plein recouvrement, en tout cas certains nombre de pays sont en plein recouvrement de la plénitude de leur souveraineté. Maintenant, dans certains cas, ça se passe un peu plus brutalement et dans d'autres, comme la Côte d'Ivoire, de façon beaucoup plus douce. Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Les temps sont en train de changer et le message qui est envoyé par un certain nombre de pays d'Afrique, c'est qu'il faut s'arrimer à la nouvelle donne, celle de la souveraineté de tous les pays. Et la France gagnerait à capter très rapidement le message et à œuvrer à ce que la perception qu'on a d'elle dans un certain nombre de pays change rapidement. Parce que la France, jusqu'ici, est vue par bon nombre de citoyens pays francophones comme un oppresseur, comme un colon, comme un pilleur. Et bien, il faut que cette France-là se mute et mute pour devenir la France pourvoyeuse de solutions technologiques, de solutions de développement, dans un paradigme gagnant-gagnant, comme elle interagit avec soit certains pays qui sont sortis de son précaré il y a longtemps, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et d'autres, ou alors d'autres pays qui n'en ont jamais fait partie, mais avec lesquels elle entretient des relations économiques et diplomatiques tout à fait rentables pour les deux. Je veux parler de pays comme la Chine, la Turquie et d'autres. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les temps changent et il faut que chacun des protagonistes l'intègre le plus rapidement possible, surtout la France.
Cabral Libi, député et candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Selon des experts, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 77 milliards de dollars pour améliorer les pratiques agricoles, augmenter les rendements et améliorer les chaînes d'approvisionnement afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Beaucoup de petits exploitants agricoles qui produisent 80% des aliments consommés en Afrique ne disposent pas de l'expertise et des ressources modernes en matière d'agriculture. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle par des agriculteurs au Kenya offre des solutions prometteuses pour améliorer les rendements. Nani Talani nous en dit davantage.
Roselyne Akoti, une agricultrice de l'ouest du Kenya, scanne ses cultures de manioc à l'aide d'un smartphone en utilisant l'intelligence artificielle pour diagnostiquer instantanément les maladies et les parasites attaquant les plantes. L'application, développée par l'organisation à but non lucratif Plant Village, offre des solutions en temps réel aux problèmes de santé des cultures. C'est une aubaine pour les agriculteurs comme Roselyne Akoti qui ont longtemps eu du mal à identifier les plantes malades. Roselyne Akoti.
Cette application téléphonique a rendu mon travail si facile. Je n'ai pas besoin d'aller loin ou de chercher quelqu'un pour des conseils ou d'utiliser de l'argent pour le transport. Il n'y a que moi dans la ferme et mon téléphone. L'application du téléphone me montre comment vont mes plantes, comment elles poussent.
La technologie fournit des ressources pour l'approvisionnement en semences de qualité, les méthodes de préparation des terres et l'accès à des spécialistes de l'agriculture. Akoti fait état d'une augmentation significative des rendements depuis l'adoption de l'application. Roselyne Akoti.
Il y a une différence. Avant, un hectare ne produisait que 5 sacs de manioc. La plupart étaient flétris ou malades. Mais grâce à la technologie moderne que j'utilise, un hectare peut maintenant produire 200 ou 250 sacs.
Le changement climatique a eu un impact supplémentaire sur ces agriculteurs en augmentant les ravageurs, les maladies et les conditions météorologiques irrégulières, les poussant souvent à s'endetter et à sombrer dans la pauvreté. Des solutions innovantes comme l'intelligence artificielle offrent un potentiel considérable pour transformer l'agriculture en Afrique. Evelyne Kibourou, spécialiste de Calro.
La technologie de l'IA en Afrique est encore limitée parmi les petits exploitants agricoles qui font face à différents obstacles tels que la culture numérique, le manque de téléphones intelligents, la faible connectivité des réseaux dans les régions rurales et le manque de sensibilisation.
L'ONG Plant Village a formé des agriculteurs et testé ces applications d'intelligence artificielle à Bouzia, une zone où sévit l'insécurité alimentaire. Laurence Amboyau est le représentant de Plant Village.
49%
de l'intelligence artificielle déployée en Afrique est basée sur l'agriculture et la raison pour laquelle nous nous concentrons sur l'agriculture est l'augmentation de la population et aussi les défis qui sont apportés par le changement climatique.
Si les agriculteurs utilisent à grande échelle les nouvelles technologies, ils pourraient améliorer leur rendement avec comme résultat la baisse de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en baisse dans les sondages, a annoncé sa démission après plusieurs semaines de crise politique. Sous pression de l'opposition et de nombreux membres de son propre parti, il a décidé de quitter ses fonctions. En attendant, le Parlement est suspendu jusqu'au 24 mars. Pour une analyse, Nani Talani s'est entretenue avec Louis Balthazar, professeur émérite des sciences politiques de l'Université de Laval au Canada.
Ce qui l'a motivé, c'est qu'une personne qui a joué un rôle crucial dans son gouvernement depuis les débuts, c'est Madame Chrystia Freeland, qui était ministre de l'économie, a démissionné tout à coup. Parce que M. Trudeau lui avait demandé d'abandonner le ministère pour se consacrer totalement aux relations difficiles avec les États-Unis en raison de l'avènement de Donald Trump au pouvoir et de ses décisions concernant les tarifs exorbitants au commerce avec le Canada puis aussi avec d'autres pays. Madame Chrystia Freeland, elle a vu ça comme une démotion et elle a quitté le cabinet. Cela arrivait dans un climat où plusieurs membres du Parti libéral, qui est le parti de M. Trudeau, critiquaient son leadership et l'appelaient à démissionner.
Comment les Canadiens réagissent à cette situation?
Les Canadiens, en général, sont d'accord, comprennent que M. Trudeau devait démissionner. Ceux qui n'aime pas le gouvernement se réjouisse du fait qu'il est parti. Ils auraient souhaité qu'il parte avant ça. Ils souhaitent des élections générales le plus tôt possible. Ceux qui appuient encore le Parti libéral comprennent bien toutes les raisons qui ont appelé M. Trudeau à démissionner. Sauf que plusieurs déplorent le fait que le gouvernement est en très mauvaise posture pour négocier avec les États-Unis, avec le nouveau gouvernement de M. Trump, qu'il y aura un pays avec un leader qui doit partir dans une situation plutôt instable.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Pour plusieurs, ce qui est inquiétant, c'est que, étant donné les sondages, à l'heure actuelle, le Parti conservateur, dont le leader est M. Pierre Poilievre, est en avance très fortement dans les sondages, avec à peu près 20 points d'avance sur tous ses adversaires. Donc, ce qui nous attend, c'est probablement une élection générale au printemps et un gouvernement conservateur.
Louis Balthazar, professeur des sciences politiques de l'Université de Laval au Canada.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'opposant vénézuélien en exil Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dans son pays, a été reçu lundi à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden l'a assuré du soutien des États-Unis. Pendant ce temps, à Caracas, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition, qui prévoit de manifester la veille de l'investiture du président Nicolas Maduro. Les précisions avec Lionel Gaïma.
Dans un communiqué publié lundi après la rencontre entre Joe Biden et Edmundo González Urrutia, la Maison-Blanche a appelé à un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela en faveur de l'opposant en exil qui s'est réjoui du soutien de Washington. Edmundo González Urrutia, opposant vénézuélien.
Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle nous avons abordé divers aspects des relations bilatérales et nous avons bien sûr apprécié le soutien que le gouvernement américain nous a apporté dans cette lutte pour le rétablissement démocratique du Venezuela.
Sur place à Caracas, la tension monte alors que le président Nicolas Maduro doit prêter serment le 10 janvier. L'opposition a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, la veille de l'investiture. Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne.
Nous, les Vénézuéliens, nous savons que si nous sortons tous, des millions d'entre nous, comment quelques centaines ou quelques milliers de personnes armées peuvent-elles attaquer 30 millions de Vénézuéliens? En fin de compte, la seule façon d'être libre est de vaincre la peur. Nous, les Vénézuéliens, l'avons démontré.
Le parti chaviste au pouvoir a lui aussi annoncé qu'il organisera une manifestation jeudi, parallèlement à celle lancée par l'opposition. Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur du Venezuela et vice-président du parti au pouvoir.
Le 9, nous allons faire une grande marche. Non, une petite marche en fait. Ce n'est pas si long. Le 9, de Petare et à Place d'Abellón, le monument de Martí qui s'y trouve.
Pour sa part, l'armée vénézuélienne a rejeté l'appel de l'opposant Edmundo González Urrutia à le reconnaître comme président. Vladimir Padrino López, ministre de la Défense.
Nous rejetons catégoriquement et avec véhémence cet acte funeste et bouffon de base politique qui n'aura pas le moindre impact sur la solide conscience patriotique et révolutionnaire des forces armées nationales bolivariennes.
Après la présidentielle du 28 juillet, le président socialiste Nicolas Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% de voix par le Conseil national électoral. Sa victoire a été validée par la Cour suprême, mais l'opposition assure que son candidat a obtenu plus de 67% de voix. M. González Urrutia, qui a pu quitter le pays pour l'exil en Espagne en septembre, effectue depuis une tournée diplomatique internationale avec des visites notamment en Argentine et aux États-Unis. Les autorités vénézuéliennes ont promis de l'arrêter, compense de 100 000 $ pour toute information permettant de le capturer.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Un grand merci à la réalisation, à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Mfa, ici va Le Monde Aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt. Toutes et à tous, au micro Mamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 8 janvier 2025. Voici le sommaire. Guerre au Soudan, le gouvernement accuse les paramilitaires d'avoir commis plus de 500 viols entre 2023 et 2024. Les États-Unis menacent de sanctionner le chef de ce groupe armé. Cameroun, libération d'un magistrat enlevé le mois dernier dans le nord-ouest anglophone, en proie à un conflit séparatiste. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a démissionné, un acte qui affaiblit son pays face à Donald Trump qui menace de taxer davantage les produits canadiens.
Plusieurs déplorent le fait que le gouvernement est en très mauvaise posture pour négocier avec les États-Unis, avec le nouveau gouvernement de M. Trump.
L'analyse de Louis Balthazar, professeur des sciences politiques à l'Université de Laval, à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Eric Maniratiza. Mais pour commencer, voici le journal. Au Cameroun, un magistrat enlevé le mois dernier dans la région anglophone du Nord-Ouest a été libéré. Jean-Augustin Amongwa a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux, disant avoir besoin de temps pour se remettre du traumatisme de son kidnapping. Nani Talani.
Le bonheur de ma libération a été accueilli par tout le monde et je veux répandre ce bonheur au lieu d'empoisonner l'esprit des gens au sujet des personnes malveillantes qui l'ont orchestré, a publié Jean-Augustin Amongwa sur sa page Facebook hier. Le directeur de Conscience africaine, organisation camerounaise des droits humains, Amadou Tarté, a lui aussi confirmé sur sa page Facebook la libération de Jean-Augustin Amongwa, le deuxième avocat général de la cour d'appel de Bamenda, enlevé le 29 décembre dernier. Selon M. Tarté, qui a échangé avec le magistrat hier, M. Amongwa lui a confié avoir besoin de 2 semaines pour se remettre du traumatisme de son kidnapping, après quoi il pourrait partager son expérience. Un responsable public sous couvert d'anonymat a confirmé que le haut fonctionnaire du ministère de la Justice avait retrouvé sa famille samedi soir. Depuis le déclenchement des violences séparatistes en 2016 au Cameroun, des kidnappings et des meurtres sont fréquents à Bamenda et dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, principalement peuplées par des anglophones.
Au Soudan, plus de 500 femmes ont été violées par des paramilitaires depuis le début de la guerre contre l'armée en avril 2023, a déclaré mardi une responsable gouvernementale, Souleyma Ishak Al-Khalifa, chef de l'unité gouvernementale de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants, a déclaré que les autorités avaient recensé 554 cas de viol commis par les paramilitaires des FSR, Force de soutien rapide, entre avril 2023 et décembre 2024. Elle a toutefois ajouté que ces chiffres ne représentaient qu'une fraction, environ 2% selon elle, du nombre réel d'attaques. Madame Khalifa a déclaré que les autorités avaient autorisé 36 avortements entre septembre 2023 et avril 2024. Les FSR n'ont pas encore répondu à ces accusations, mais en octobre dernier, un membre de ce groupe avait déclaré que les paramilitaires n'avaient recensé qu'un seul viol dans les zones sous leur contrôle. Les paramilitaires et les FSR sont accusés par l'administration Biden de commettre un génocide au Soudan. Washington envisage de sanctionner Mohamed Hamdan Daglo, le chef de ce groupe. Jean-Roger Billon.
Washington se défend de prendre parti dans le conflit et entend surtout promouvoir la responsabilité pour les crimes de guerre et autres atrocités commis dans le conflit au Soudan. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain a fait savoir que les RSF et les milices alliées ont systématiquement assassiné des hommes et des garçons, même des nourrissons, sur une base ethnique et ont délibérément ciblé des femmes et des filles de certains groupes ethniques pour les violer. En conséquence, le département du Trésor américain va imposer des sanctions au chef des RSF, Mohamed Hamdan Daglo Moussa, également connu sous le nom de Emediti. Ces sanctions vont également s'appliquer à 7 sociétés appartenant au RSF aux Émirats Arabes Unis, dont une qui se livrait à la contrebande de l'or au Soudan. Les RSF et l'armée soudanaise ont commencé à se battre en avril 2023. Leur conflit a fait plus de 28 000 morts et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer dans une tentative désespérée de survivre alors que la famine frappe certaines parties du pays.
En Angola, 5 opposants au président João Lourenço ont été libérés après plus d'un an de détention. Parmi eux figure une influenceuse séropositive connue pour ses conseils aux malades sur TikTok, Antoine Bolamba.
Ana da Silva Miguel, connue sous le nom de Net Nahara, a été libérée le 1er janvier, tandis que les 4 autres ont été libérés le 6 janvier, a indiqué l'Organisation de défense des droits humains dans un communiqué. Le président João Lourenço avait annoncé leur grâce à Noël. Net Nahara est connue pour publier sur TikTok des conseils sur la vie avec le VIH, faisant d'elle l'une des rares Angolaises à parler publiquement de ce sujet. Elle avait été arrêtée le 13 août 2023 après avoir critiqué le président dans une vidéo en direct. Les autres militants avaient été arrêtés le 16 septembre 2023 en amont d'une manifestation selon l'organisation. Amnesty affirme que le gouvernement a privé Net Nahara de son traitement contre le VIH en prison, tandis que la santé des autres détenus s'est également gravement détériorée pendant leur incarcération. Bien que nous célébrions leur libération, ces 5 personnes n'auraient jamais dû être emprisonnées, a déclaré Sarah Jackson, directrice adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et Australe.
La mère de l'activiste égypto-britannique Ala Abdel Fattah a observé mardi son 100e jour de grève de la faim pour protester contre l'emprisonnement prolongé de son fils, promettant de continuer jusqu'à sa libération. La professeure de mathématiques de 68 ans a exhorté le gouvernement britannique à agir davantage pour obtenir la libération de son fils. Madame Laila Souefa a indiqué qu'elle survivait avec rien d'autre que du café noir, des tisanes, des sels de réhydratation et des vitamines. En septembre 2019, le blogueur pro-démocratie de 43 ans avait été arrêté après avoir partagé un texte sur la torture dans les prisons égyptiennes. Ala Abdel Fattah a été une figure du soulèvement de 2011 qui a renversé le pouvoir de Hosni Moubarak à la tête du pays pendant 3 décennies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi que les pays de l'OTAN doivent accroître leur budget de défense à 5% de leur PIB. Il a souvent reproché aux membres de l'Alliance de ne pas faire assez pour assurer leur protection, dit Lédico.
Ils peuvent tous se le permettre, a dit Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier à la Maison-Blanche. Il devrait être à 5%, pas 2%, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride. L'ancien et futur président américain avait menacé durant la campagne électorale de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie si ceux-ci ne consacraient pas un budget suffisant à leur défense. S'ils paient leurs factures et si je pense qu'ils nous traitent de manière juste, la réponse est absolument que je resterai avec l'OTAN, a-t-il déclaré dans une interview récente. Les pays de l'OTAN se sont engagés il y a 10 ans, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, à consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement. Le chef de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, a lui-même prévenu le mois dernier que l'Europe devait dépenser beaucoup plus pour assurer sa défense.
Des hommes cagoulés ont enlevé mardi à Caracas, la capitale du Venezuela, le gendre d'Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, a annoncé l'opposant depuis Washington. À trois jours de l'investiture du président Nicolas Maduro, mon gendre, Rafael Tudares, a été enlevé ce matin. Des hommes cagoulés et vêtus de noir l'ont fait monter dans une camionnette de couleur dorée et l'ont amené. Il est aujourd'hui porté disparu, a écrit M. González Urrutia sur X. J'affirme catégoriquement que mon mari est innocent de tout ce dont il pourrait être accusé, a déclaré Mariana González, la fille de l'opposant. En parallèle, la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, a dénoncé un harcèlement de sa mère. Des agents du régime ont encerclé la maison de ma mère, a-t-elle posté sur X, affirmant également que l'électricité avait été coupée dans la zone. Le gouvernement vénézuélien n'a pas encore réagi à ces accusations. L'ONU et le gouvernement libanais ont lancé mardi un nouvel appel aux dons de 371 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires urgents de la population touchée par le récent conflit entre Israël et le Hezbollah. Plus de 125 000 personnes sont toujours déplacées et des centaines de milliers de plus font face à d'immenses défis pour reconstruire leur vie, a commenté dans un communiqué Imran Riza, coordinateur humanitaire de l'ONU au Liban. Cet appel est principalement destiné à aider jusqu'en mars 1 million de Libanais, de réfugiés syriens et palestiniens et de migrants les plus touchés par la crise humanitaire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
Le champ pétrolier et gazier offshore de Sangomar au Sénégal a augmenté sa production de brut à 16,9 millions de barils en 2024, dépassant son objectif initial de 11,7 millions, a déclaré mardi le ministère de l'Énergie de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Découvert il y a 10 ans, environ 100 km au sud de la capitale Dakar, Sangomar devrait produire environ 100 000 barils par jour. En Côte d'Ivoire, plus d'un tiers des 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium transportées par le navire Zimrida sont destinées à une société minière, indiqué mardi le directeur général du port d'Abidjan. 8 000 tonnes seront déchargées en Côte d'Ivoire après des soupçons d'avarie. Le navire battant pavillon de la Barbade a été autorisé à accoster lundi, jugé sans danger. Le Zimrida restera en quai deux semaines avant de poursuivre sa route vers l'Angola et la Tanzanie. L'île Maurice a émis un ordre d'arrestation à l'encontre de son ancien ministre des Finances, Renganaden Padayashi, selon un avis de la police publié dans les journaux locaux mardi. Cet avis intervient quelques jours après l'arrestation de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, qui a été libéré sous caution le week-end dernier après avoir été détenu et accusé de conspiration en vue de commettre une fraude.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Rallye Dakar 2025 à 19 ans, Variawa s'empare de la troisième étape.
Le jeune Sud-Africain Saoud Variawa, 19 ans, a gagné mardi la troisième étape de la catégorie auto du rallye Dakar en Arabie Saoudite, une heure devant le Français Sébastien Loeb, accidenté. Avec son copilote et mentor, le Français François Cazalet, le pilote de Toyota a conclu la spéciale de 327 km entre Bicha et Al-Anekia en 3h16 minutes 52 secondes. 33 secondes à peine devant le Français Gerlin Chicherit. L'Américain Seth Quintero complète le podium à 1 minute 48 secondes. Au classement général provisoire, le Sud-Africain Henk Lategan, Toyota, conservait la tête 7 minutes 17 secondes devant le Qatari Nasser Al-Attiya Dacia et 9 minutes 34 secondes devant le Suédois Mathias Ekström Ford.
Real Madrid, Florentino Pérez convoque les socios aux élections.
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a lancé mardi la procédure d'élection générale au club auquel il devrait être l'unique candidat à sa propre succession. Le président du club a demandé au conseil électoral d'entamer la procédure de convocation des élections du président et du conseil d'administration du club, indique le club de Madrid dans un communiqué sur son site internet. L'homme d'affaires âgé de 77 ans devrait être aisément réélu sans opposition comme lors des trois derniers scrutins 2013, 2017 et 2021 organisés depuis son retour à la tête du club en 2009. Pérez avait été élu président du club merengue pour la première fois en 2000 sous l'ère des Galactiques avant de démissionner en 2006. Depuis son retour, le Real a remporté 5 championnats d'Espagne et 6 ligues des champions.
L'Olympique de Marseille se renforce avec le défenseur Luis Felipe.
Marseille a enregistré mardi son premier renfort du marché hivernal des transferts avec la signature du défenseur central italo-brésilien Luis Felipe Ramos, qui s'est engagé après avoir rompu son contrat avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Âgé de 27 ans, Luis Felipe a signé avec l'OM jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, selon une source ayant connaissance du dossier. Défenseur solide et expérimenté, il vient renforcer l'arrière-garde de l'OM, sans doute le secteur le plus fragile du club, entraîné par l'Italien Roberto De Zerbi. International avec le Brésil en équipe de jeunes, Luis Felipe a ensuite opté pour l'Italie, avec laquelle il compte une sélection en 2022.
Tony Estanguet devrait faire son retour au Comité international olympique en mars.
Le patron du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, devrait redevenir membre du Comité international olympique en mars après un premier mandat de 8 ans sur proposition mardi de l'instance de Lausanne.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous maintenant, la partie magazine. Le Tchad et le Sénégal ont dénoncé les propos du président français Emmanuel Macron, reprochant aux dirigeants africains un manque de gratitude envers la France pour son intervention au Sahel. Ces deux pays et d'autres en Afrique ont récemment demandé le retrait des forces françaises de leur territoire, certains préférant même un rapprochement avec Moscou. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint à Yaoundé le député camerounais Kabra Libi.
La France, pays souverain, prend la parole. Le Tchad et le Sénégal, qui sont également des pays souverains, se sont exprimés. On peut tout au plus invoquer une forme d'asymétrie communicationnelle au sujet d'une problématique qui les concerne tous. À la vérité, la France a cru s'arroger un ton paternaliste à l'endroit des deux autres pays qui, en réaction, ont invoqué leur souveraineté, ce qui, de mon point de vue, est tout à fait légitime.
Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques des critiques récentes donc du Sénégal et du Tchad envers les propos d'Emmanuel Macron?
Je crois que la conséquence logique qui devrait advenir, c'est un respect renforcé entre ces différents pays. La France doit descendre un peu plus de ses grands chevaux, sortir de son paternalisme, arrêter de regarder d'autres pays souverains de haut, arrêter de tenir des propos que l'on pourrait trouver de condescendants. Et je crois d'ailleurs que cet adjectif a été employé, je crois, soit le Tchad ou le Sénégal. Et considérer que ces autres pays-là sont au titre en tout cas de la Charte des Nations Unies des pays souverainement égaux.
Ces propos surviennent après la demande de retrait des armées françaises du continent notamment. Est-ce que, de votre point de vue, les différentes perspectives de départ dans les pays africains sont les mêmes à Abidjan, au Niger, au Sénégal, au Tchad et dans d'autres pays où ça pourrait advenir?
Il s'agit au fond de ruptures, souvent qui soufflent violemment en Afrique de l'Ouest, qui commence à s'emparer de l'Afrique centrale. Donc c'est un vent de rupture qui souffle. Les pays sont en plein recouvrement, en tout cas certains nombre de pays sont en plein recouvrement de la plénitude de leur souveraineté. Maintenant, dans certains cas, ça se passe un peu plus brutalement et dans d'autres, comme la Côte d'Ivoire, de façon beaucoup plus douce. Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Les temps sont en train de changer et le message qui est envoyé par un certain nombre de pays d'Afrique, c'est qu'il faut s'arrimer à la nouvelle donne, celle de la souveraineté de tous les pays. Et la France gagnerait à capter très rapidement le message et à œuvrer à ce que la perception qu'on a d'elle dans un certain nombre de pays change rapidement. Parce que la France, jusqu'ici, est vue par bon nombre de citoyens pays francophones comme un oppresseur, comme un colon, comme un pilleur. Et bien, il faut que cette France-là se mette et mute pour devenir la France pourvoyeuse de solutions technologiques, de solutions de développement. dans un paradigme gagnant-gagnant, comme elle interagit avec soit certains pays qui sont sortis de son précaré il y a longtemps, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et d'autres, ou alors d'autres pays qui n'en ont jamais fait partie, mais avec lesquels elle entretient des relations économiques et diplomatiques tout à fait rentables. Pour les deux, je veux parler des pays comme la Chine, la Turquie et d'autres. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les temps changent et il faut que chacun des protagonistes l'intègre le plus rapidement possible, surtout la France.
Cabral Libi, député et candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Selon des experts, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 77 milliards de dollars pour améliorer les pratiques agricoles, augmenter les rendements et améliorer les chaînes d'approvisionnement afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Beaucoup de petits exploitants agricoles qui produisent 80% des aliments consommés en Afrique ne disposent pas de l'expertise et des ressources modernes en matière d'agriculture. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle par des agriculteurs au Kenya offre des solutions prometteuses pour améliorer les rendements. Nani Talani nous en dit davantage.
Roselyne Akoti, une agricultrice de l'ouest du Kenya, scanne ses cultures de manioc à l'aide d'un smartphone en utilisant l'intelligence artificielle pour diagnostiquer instantanément les maladies et les parasites attaquant les plantes. L'application, développée par l'organisation à but non lucratif Plant Village, offre des solutions en temps réel aux problèmes de santé des cultures. C'est une aubaine pour les agriculteurs comme Roselyne Akoti qui ont longtemps eu du mal à identifier les plantes malades. Roselyne Akoti.
Cette application téléphonique a rendu mon travail si facile. Je n'ai pas besoin d'aller loin ou de chercher quelqu'un pour des conseils ou d'utiliser de l'argent pour le transport. Il n'y a que moi dans la ferme et mon téléphone. L'application du téléphone me montre comment vont mes plantes, comment elles poussent.
La technologie fournit des ressources pour l'approvisionnement en semences de qualité, les méthodes de préparation des terres et l'accès à des spécialistes de l'agriculture. Akoti fait état d'une augmentation significative des rendements depuis l'adoption de l'application. Roselyne Akoti.
Il y a une différence. Avant, un hectare ne produisait que 5 sacs de manioc. La plupart étaient flétris ou malades. Mais grâce à la technologie moderne que j'utilise, un hectare peut maintenant produire 200 ou 250 sacs.
Le changement climatique a eu un impact supplémentaire sur ces agriculteurs en augmentant les ravageurs, les maladies et les conditions météorologiques irrégulières, les poussant souvent à s'endetter et à sombrer dans la pauvreté. Des solutions innovantes comme l'intelligence artificielle offrent un potentiel considérable pour transformer l'agriculture en Afrique. Evelyne Kibourou, spécialiste de Calro.
La technologie de l'IA en Afrique est encore limitée parmi les petits exploitants agricoles qui font face à différents obstacles tels que la culture numérique, le manque de téléphones intelligents, la faible connectivité des réseaux dans les régions rurales et le manque de sensibilisation.
L'ONG Plant Village a formé des agriculteurs et tester ces applications d'intelligence artificielle à Bouzia, une zone où sévit l'insécurité alimentaire. Laurence Amboyau est le représentant de Plant Village.
49% de l'intelligence artificielle déployée en Afrique est basée sur l'agriculture et la raison pour laquelle nous nous concentrons sur l'agriculture est l'augmentation de la population et aussi les défis qui sont apportés par le changement climatique.
Si les agriculteurs utilisent à grande échelle les nouvelles technologies, ils pourraient améliorer leur rendement avec comme résultat la baisse de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en baisse dans les sondages, a annoncé sa démission après plusieurs semaines de crise politique. Sous pression de l'opposition et de nombreux membres de son propre parti, il a décidé de quitter ses fonctions. En attendant, le Parlement est suspendu jusqu'au 24 mars. Pour une analyse, Nani Talani s'est entretenu avec Louis Balthazar, professeur émérite des sciences politiques de l'Université de Laval au Canada.
Ce qui l'a motivé, c'est qu'une personne qui a joué un rôle crucial dans son gouvernement depuis les débuts, c'est Madame Chrystia Freeland, qui était ministre de l'économie, a démissionné tout à coup parce que M. Trudeau lui avait demandé d'abandonner le ministère pour se consacrer totalement aux relations difficiles avec les États-Unis en raison de l'avènement de Donald Trump au pouvoir et de ses décisions concernant les tarifs exorbitants au commerce avec le Canada, puis aussi avec d'autres pays. Madame Chrystia Freeland, elle a vu ça comme une démotion et elle a quitté le cabinet. Cela arrivait dans un climat où plusieurs membres du Parti libéral, qui est le parti de M. Trudeau, critiquaient son leadership et l'appelaient à démissionner.
Comment les Canadiens réagissent à cette situation?
Les Canadiens, en général, sont d'accord, comprennent que M. Trudeau devait démissionner. Ceux qui n'aiment pas le gouvernement se réjouissent du fait qu'il est parti. Ils auraient souhaité qu'il parte avant ça. Ils souhaitent des élections générales le plus tôt possible. Ceux qui appuient encore le Parti libéral comprennent bien toutes les raisons qui ont appelé M. Trudeau à démissionner. Sauf que plusieurs déplorent le fait que le gouvernement est en très mauvaise posture pour négocier avec les États-Unis, avec le nouveau gouvernement de M. Trump, puisqu'il en sort un peu affaibli, avec un leader qui doit partir dans une situation plutôt instable.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Pour plusieurs, ce qui est inquiétant, c'est que, étant donné les sondages, à l'heure actuelle, le Parti conservateur, dont le leader est M. Pierre Poilievre, est en avance très fortement dans les sondages, avec à peu près 20 points d'avance sur tous ses adversaires. Donc, ce qui nous attend, c'est probablement une élection générale au printemps et un gouvernement conservateur.
Louis Balthazar, professeur des sciences politiques de l'Université de Laval au Canada.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'opposant vénézuélien en exil Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dans son pays, a été reçu lundi à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden l'a assuré du soutien des États-Unis. Pendant ce temps, à Caracas, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition, qui prévoient de manifester la veille de l'investiture du président Nicolas Maduro. Les précisions avec Lionel Gaïma.
Dans un communiqué publié lundi après la rencontre entre Joe Biden et Edmundo González Urrutia, la Maison-Blanche a appelé à un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela en faveur de l'opposant en exil qui s'est réjoui du soutien de Washington. Edmundo González Urrutia, opposant vénézuélien.
Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle nous avons abordé divers aspects des relations bilatérales et nous avons bien sûr apprécié le soutien que le gouvernement américain nous a apporté dans cette lutte pour le rétablissement démocratique du Venezuela.
Sur place à Caracas, la tension monte alors que le président Nicolas Maduro doit prêter serment le 10 janvier. L'opposition a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, la veille de l'investiture. Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne.
Nous, les Vénézuéliens, nous savons que si nous sortons tous, des millions d'entre nous, comment quelques centaines ou quelques milliers de personnes armées peuvent-elles attaquer 30 millions de Vénézuéliens? En fin de compte, la seule façon d'être libre est de vaincre la peur. Nous, les Vénézuéliens, l'avons démontré.
Le parti chaviste au pouvoir a lui aussi annoncé qu'il organisera une manifestation jeudi, parallèlement à celle lancée par l'opposition. Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur du Venezuela et vice-président du parti au pouvoir.
Le 9, nous allons faire une grande marche. Non, une petite marche en fait. Ce n'est pas si long. Le 9, de Petar et à Place d'Abellón, le monument de Martí qui s'y trouve.
Pour sa part, l'armée vénézuélienne a rejeté l'appel de l'opposant Edmundo González Urrutia à le reconnaître comme président. Vladimir Padrino López, ministre de la Défense.
Nous rejetons catégoriquement et avec véhémence cet acte punaise et bouffon de base politique qui n'aura pas le moindre impact sur la solide conscience patriotique et révolutionnaire des forces armées nationales bolivariennes.
Après la présidentielle du 28 juillet, le président socialiste Nicolas Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% de voix par le Conseil national électoral. Sa victoire a été validée par la Cour suprême. Mais l'opposition assure que son candidat a obtenu plus de 67% de voix. M. González Urrutia, qui a pu quitter le pays pour l'exil en Espagne en septembre, effectue depuis une tournée diplomatique internationale avec des visites notamment en Argentine et aux États-Unis. Les autorités vénézuéliennes ont promis de l'arrêter, récompense de 100 000 dollars pour toute information permettant de le capturer.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Un grand merci à la réalisation, à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Mfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24h sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.